Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Église encourage tout effort en vue de la paix dans le monde, particulièrement au Moyen-Orient. Benoît XVI l'a réaffirmé en recevant lundi les 6 nouveaux cardinaux et les délégations de leur pays. Vous entendrez la réaction du patriarche maronite libanais Béchar Araï. Nous parlerons des femmes dans ce magazine, de leur promotion dans les sphères politiques, sociales et professionnelles. C'était le thème des semaines sociales en fin de semaine à Paris. Les femmes pourtant de plus en plus touchées par la précarité, un dossier qui inquiète le Secours catholique. Au sommaire également, l'inauguration à Vienne d'un centre pour le dialogue, résultat d'une initiative lancée il y a 9 ans par l'Arabie Saoudite. Le Saint-Siège a accepté d'y adhérer en qualité d'observateur fondateur. Le Centre international pour le dialogue interreligieux et interculturel Roi Abdallah Ben Abdelaziz a été inauguré en grande pompe ce lundi soir à Vienne, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, du président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux le cardinal Jean-Louis Torrent, ainsi que de quelques 600 invités. L'Arabie saoudite est l'un des 3 États cofondateurs avec l'Autriche et l'Espagne. Une délégation vaticane de haut niveau a été envoyée à la cérémonie d'inauguration.
L'initiative a suscité de vives critiques et soulevé de nombreuses interrogations, car le centre est financé pour les 3 premières années par l'Arabie saoudite, un pays où la liberté religieuse n'existe pas, où les cultes publics non musulmans sont interdits, où les conversions sont punissables de mort et où les défenseurs des droits de l'homme et les dissidents font l'objet d'une sévère répression. Pour ses détracteurs, ce centre, sous couvert de dialogue, ne servira que les intérêts politiques et religieux de l'Arabie saoudite. Certains y voient même une offensive médiatique de l'Arabie saoudite pour promouvoir le wahhabisme. Il y a quelques jours, le Saint-Siège avait fait savoir qu'il ne manquerait pas d'exprimer ses préoccupations quant au respect authentique des droits fondamentaux des chrétiens qui vivent dans des pays à majorité musulmane. Pour le Saint-Siège, le nouveau centre de Vienne peut offrir un espace adéquat pour exposer des exigences et chercher des solutions. Et le cardinal Jean-Louis Torrent, invité à prendre la parole à l'ouverture des travaux, s'est exprimé sans détour. De plus, le symposium qui a précédé l'inauguration sur les moyens de promouvoir le dialogue a favorisé de nombreux échanges en marge des cérémonies officielles. Toutes les grandes religions et traditions étaient représentées. Les initiatives culturelles, l'éducation des jeunes, la solution des situations de conflit, la collaboration avec des agences comme l'UNICEF ont été évoquées, mais l'inquiétude demeure.
Un budget annuel de 10 à 15 millions d'euros doit permettre le fonctionnement du centre avec une équipe de 25 personnes à Vienne. Le centre sera gouverné par un conseil de 9 membres de différentes religions, des modérés nommés par les États fondateurs. Parmi eux, le père Miguel Ayuso, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le métropolite orthodoxe Emmanuel de France. Le poste de secrétaire général a été confié à un ancien vice-ministre saoudien de l'éducation. Il est de coutume qu'au terme d'un consistoire, le pape revoie une fois encore les nouveaux cardinaux, accompagnés de leurs familles, de leurs amis et des fidèles de leur pays d'origine qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Benoît XVI, ce lundi midi, n'a pas dérogé à la coutume. L'occasion pour le pape de lancer un appel à la paix pour le Proche-Orient, Bernard de Cotigny.
C'était un moment convivial, informel, au terme de 2 jours de cérémonie qui ont vu Benoît XVI créer 6 nouveaux cardinaux pour presque autant de régions du monde. Le Proche-Orient, l'Amérique et l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Dans un court discours en 4 langues, le pape a tenu à rappeler qu'un consistoire est toujours un événement qui concerne l'Église universelle, appelée à être signe d'espérance pour tous les peuples. Aux nouveaux cardinaux, américains, colombiens, philippins, indiens, nigérians et libanais, Benoît XVI a souhaité qu'ils puissent au mieux assumer leur nouvelle charge en union avec le successeur de Pierre et qu'ils puissent se révéler d'infatigables collaborateurs du siège apostolique, mais aussi qu'ils soient des signes de paix, de justice, de réconciliation et de solidarité dans leur pays et les régions où ils vivent. Ainsi le Liban et le Proche-Orient avec le cardinalat du patriarche Boutros Raï.
Je désire encourager particulièrement la vie et la présence des chrétiens au Moyen-Orient où ils doivent pouvoir vivre librement leur foi et lancer une nouvelle fois un appel pressant à la paix dans la région. L'Église encourage tout effort en vue de la paix dans le monde et au Moyen-Orient, paix qui ne sera effective qui se base sur un authentique respect de l'autre.
Vivre librement leur foi, c'est un vœu qui s'adresse aussi aux chrétiens de l'Inde ou du Nigeria, bien sûr. Dimanche encore, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés près de Kaduna, dans une église protestante. Aux Philippines, en Colombie, aux États-Unis, les problèmes sont autres, mais leurs nouveaux cardinaux sont autant de signes d'une église présente et bienveillante.
Dans son discours, Benoît XVI a donc expliqué avoir choisi le patriarche maronite Béchara Rai pour encourager particulièrement la vie et la présence des chrétiens au Moyen-Orient, où ils doivent pouvoir vivre librement leur foi. Béchara Rai a été créé cardinal dans un contexte de vives tensions dans plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient. Le cardinal Rai, qui se fait le porte-parole des chrétiens de la région, se dit inquiet face à la situation en Syrie, en Terre Sainte, en Irak, en Égypte et au Liban, et il évoque la montée de l'intégrisme et du fondamentalisme. Interrogé par Hélène Destombes, il témoigne du sens de sa nouvelle charge et réagit à l'appel du pape ce lundi matin.
Tout le Libanais est vraiment chrétien et musulman de toutes les factions politiques, de communautés, ont tous lu ce geste du Saint-Père comme une gratification à l'Église et aussi aux Libanais. Et ils ont tous compris qu'ils ont été appelés à travers cet honneur de cardinaliste, de cardinalat, appelés à continuer ensemble leur message de convivialité, aussi de porter en avant l'exhortation apostolique, l'Église au Moyen-Orient, communion et témoignage. Moi, vraiment, avec toute émotion, j'exprime ma gratitude au Saint-Père, mais en même temps, j'ai senti un courage pour continuer la mission, malgré tous les défis qui nous attendent, soit au Liban, soit au Moyen-Orient. Mais aussi, la force vient non seulement de la grâce de Dieu, mais aussi de cette lecture commune que tous ont fait, comme j'ai dit, musulmans et chrétiens. C'est pourquoi je retourne au Liban avec toute confiance, à lire encore plus la volonté de Dieu, en application la feuille de route, je dirais, qui est l'exhortation apostolique.
Benoît XVI, en vous recevant aux côtés des nouveaux cardinaux ce lundi matin, aux côtés également des familles et des proches, a lancé un nouvel appel à la paix pour le Proche-Orient. Il s'est adressé directement à vous en français.
Oui, nous vivons des moments très, très critiques, des conflits, la montée de l'intégrisme, la guerre, le terrorisme, les divisions politiques. Malgré tout ça, c'est toujours la confiance en Dieu et toujours la confiance en l'Église qui doit être toujours messagère de paix et de stabilité. Voilà ce que nous entendons toujours du Saint-Père et je désire bien avec tous nos évêques d'être à la hauteur de ses intentions.
Vous parlez des conflits au Proche-Orient, on pense bien sûr à la situation en Syrie, mais aussi au conflit qu'il y a eu entre les militants du Hamas et Israël. C'est une situation, j'imagine, qui vous préoccupe particulièrement.
Sûrement, surtout parce qu'elle a se retombé chez nous, comme surtout les chrétiens et toute la région. Nous faisons une partie intégrante, comme des vases communicants. Et nous sommes une seule entité, nous, du monde du Moyen-Orient. C'est pourquoi tout ce qui arrive de mauvais dans un quelconque pays, nous subissons les conséquences. Et tout ce qui est bon, nous subissons aussi les bonnes conséquences. Nous sommes préoccupés pour la Terre Sainte, nous sommes préoccupés pour la Syrie, nous sommes préoccupés pour l'Irak, pour l'Égypte, pour le Liban, parce que c'est la montée, malheureusement, du radicalisme maintenant. Nous avons un grand message évangélique à donner en face de l'antichrisme et du frontalisme qui est en train de monter et d'être soutenu un peu de partout.
C'est dans ce contexte que vous venez d'être créé cardinal, c'est une très lourde responsabilité.
C'est vrai, nous avons fait cette lecture tous ensemble, mais elle devient facile et moins lourde parce que c'est une lecture commune.
C'était le cardinal Béchara Rai, patriarche d'Antioche des Maronites. Le nouveau nonce apostolique en Israël a effectué lundi son entrée solennelle au Saint-Sépulcre en présence de dignitaires civils et religieux. Les franciscains de la custodie ont ouvert la procession solennelle qui a suivi l'itinéraire habituel. Nommé en août dernier par Benoît XVI, Mgr Giuseppe Lazzarotto est également nonce à Chypre et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine. Son prédécesseur, Mgr Franco, reste cependant responsable du dossier pour les négociations entre le Saint-Siège et Israël concernant la fiscalité, les taxes et les terrains de l'Église en Israël. Le nouveau nonce s'installe dans une période tendue et le patriarche latin, Mgr Foitoile, n'a pas manqué de souligner que c'est du Saint-Sépulcre qu'il pourra prendre la force de sa future mission. Pour sa part, le responsable de la custodie de Terre Sainte, le père Pizzaballa, a affirmé que Jérusalem avait besoin de Rome, de la parole du Saint-Père. Le pape, a-t-il dit, nous montre le chemin pour que notre témoignage demeure crédible et que nos traditions ne deviennent pas des récipients vides. Treize évêques français, dont le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules, ont été reçus par le pape ce lundi matin. Ils font partie du troisième et dernier groupe d'évêques français en visite ad limina. En tout, 36 évêques et un administrateur diocésain du Grand Sud de la France, Clermont, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse, accompagnés notamment par le porte-parole de la conférence, Mgr Bernard Potvin. Benoît XVI leur adressera un discours vendredi. Le cardinal XXIII, président de la conférence des évêques, a fait partie du deuxième groupe. Lors d'une rencontre avec les journalistes à Rome, il a encouragé les chrétiens à prendre leurs responsabilités dans l'action politique et publique. « Nous avons, a-t-il dit, un lourd retard dans ce domaine, car nous avons des traditions et des habitudes. » L'archevêque de Paris a regretté qu'une génération de catholiques ne veuille pas se mêler d'action publique. Toujours en France, quelques 3000 personnes ont participé le week-end dernier aux Semaines sociales, un rendez-vous toujours très attendu. Cette session 2012, qui s'est déroulée au Parc Floral de Paris, s'était fixée pour premier objectif de dresser un état des lieux de l'égalité homme-femme et de prendre la mesure des évolutions qui ont modifié en quelques décennies une hiérarchisation plus que millénaire entre les sexes. Dans son discours d'ouverture, le président des Semaines sociales, Jérôme Vignon, a qualifié cette évolution de principale révolution du XXe siècle. En France, plus de 80% des femmes travaillent, 43% des cadres sont des femmes, mais il reste encore beaucoup à faire pour parler réellement d'égalité. Les discriminations et les stéréotypes subsistent, des hommes ont peur et désertent leurs compagnes ou leur foyer, de nombreuses femmes sont toujours victimes de violences. De plus, cet équilibre encore fragile est bousculé par la théorie du genre, qui ne se fonde plus sur la différence des sexes, mais sur celle des sexualités. Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines sociales, pense que la différence sexuelle est la matrice de toutes les autres altérités. Manuela Affigi l'a interrogé pour un bilan de cette session.
Il y a des lois pour la parité, ou disons pour l'égalité ou la mixité. Normalement, ça devrait marcher. Or, il y a des résistances, c'est-à-dire que en une vingtaine d'années, le temps que l'homme consacre aux tâches familiales, il a augmenté de 6% ou 10%. Donc il y a des résistances qui sont factuelles. Par exemple, dans l'égalité salariale, qui est un principe à travail égal, salaire égal, établi depuis longtemps, il y a tout de même 25% de différence entre les hommes et les femmes, et 10% si on considère la même tâche. Donc il y a des résistances objectives qui sont mesurables et quantifiables, et puis il y a des résistances subjectives, particulièrement du côté des hommes, qui ont du mal à trouver leur place aujourd'hui dans leur rôle. Et puis, il y a des résistances à d'autres choses. Et on peut aborder un sujet qu'on a abordé aussi, c'est qu'il y a des excès dans l'égalitarisme, qui est la question du mariage pour tous. Elle nous a rejoint en chemin, cette question-là. Et là, il est tout à fait normal de dire que, non, tout ne se vaut pas. C'est pas la même chose. Alors, c'est pas du tout de la même nature. La résistance, c'est pas du tout de la même nature, mais là, elle est valable. L'indifférenciation des sexes, par exemple, dans le cas du mariage pour tous, est quelque chose qui brouille l'affiliation, qui brouille les repères, qui brouille les identités. Et il nous a semblé, après avoir bien pesé les choses, que c'était une impasse et qu'une société qui réclamait une plus grande égalité des personnes ne pouvait pas comme ça brouiller et effacer les points de départ comme s'il n'y avait pas des conditions différentes. Voilà, on ne vient pas de nulle part, on est fait de chair et de sang différents. Et il faut bien aussi affirmer cette différence.
Est-ce que la dynamique de l'égalité dans son évolution, est-ce qu'elle n'a pas porté atteinte à la qualité des rapports entre hommes et femmes ?
Ça dépend ce qu'on met là-dessous. On est passé d'un état à un autre. On est passé d'un état où il y avait une domination effective de l'homme sur la femme. Il y avait une répartition des tâches et des rôles à une autre société, qui est notre société contemporaine. Savoir si elle a porté atteinte, c'est très compliqué parce que on a bien pu vérifier que c'était aussi une question générationnelle. C'est-à-dire que les personnes un peu plus âgées ont une toute autre vision de la société, de la répartition des tâches et des rôles que des personnes plus jeunes. Donc c'est très difficile de porter un jugement de valeur. Il vaut mieux essayer de prendre la réalité comme elle est et de voir en quel sens on peut aller vers une meilleure égalité. Dans le domaine de la vie familiale, par exemple, dont on a pas mal parlé, le fait que les pères soient plus présents dans les tâches familiales, ça apporte aussi quelque chose à la vie de la famille, ça apporte quelque chose à la femme, ça apporte quelque chose aux enfants. Les changements de rôle, parfois, sont difficiles à assumer, parfois créent des déstabilisations, ça on en a pas mal parlé, mais ils sont tout de même la promesse d'un plus, parce que un homme plus une femme, ça fait pas seulement deux personnes, donc ça fait plus que deux, quoi. C'est vraiment l'addition de deux personnes dans lesquelles il y a de l'altérité et donc la promesse de quelque chose de plus.
C'était Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines sociales de France. Sachez qu'une feuille de route sur l'égalité homme-femme sera donnée le 30 novembre en France lors d'un comité interministériel. Et en France, justement, les femmes sont de plus en plus touchées par la pauvreté. C'est le constat sans appel du Secours catholique délivré dans son dernier rapport. À l'occasion de la journée de sensibilisation au thème de la pauvreté, organisée le 29 novembre par l'UER, Union européenne de radiodiffusion, Radio Vatican vous propose une série de volets consacrés à la pauvreté. En France, les femmes représentent 57% des adultes précaires. La précarité se conjugue donc maintenant au féminin. En cause, la crise, mais aussi l'éclatement de la famille, dont les femmes sont les premières victimes. C'est ce que nous explique Brigitte Halsberg, responsable du département Solidarité familiale au Secours catholique.
Les situations de pauvreté que nous rencontrons durent depuis longtemps. C'est souvent des situations qui ne sont pas nouvelles. C'est des situations qui sont là depuis un temps assez long. La précarité rend les choses de plus en plus difficiles, entre autres les vies de famille. Et donc des familles qui soient vivent à l'hôtel ou dans des logements trop petits ou n'ont pas d'emploi. Finalement, souvent, ça mène effectivement à des ruptures de couple. Et les femmes, souvent, restent plus facilement seules avec leurs enfants plutôt de reconstruire une vie. Donc on sent ces situations qui durent.
Est-ce qu'à l'inverse, la pauvreté diminue chez les hommes?
Les hommes étant moins souvent en charge de famille, ils ont moins de charges. Si vous êtes seul à essayer de vous débrouiller, même si vous avez un petit salaire, je ne dis pas que c'est facile, mais disons qu'il y a des ouvertures un petit peu différentes. Quand vous êtes en charge de vos enfants, eh bien évidemment, le budget général est plus élevé, la question du logement est plus cruciale, la question des horaires, de l'emploi, enfin voilà, tout va être plus lourd pour une mère avec des enfants que pour quelqu'un qui est seul.
Vous travaillez avec des femmes pauvres au quotidien, qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Le témoignage des femmes, concrètement, c'est déjà de vouloir se battre pour leurs enfants. Ça, c'est une évidence. Elles le disent toutes, c'est on veut autre chose, on veut le meilleur pour nos enfants, on veut quelque chose de mieux que ce que nous, on a eu. Donc vraiment, ces femmes sont extrêmement battantes, extrêmement tenaces. L'autre chose qu'elles disent, c'est vraiment, elles voudraient que soient prises en compte leurs difficultés. Je pense qu'il y a des questions de garde. Arriver à combiner un travail, surtout à horaire décalé, et des enfants, c'est quelque chose de très difficile. Voilà, elles aimeraient qu'on entende ces difficultés-là. Souvent aussi des difficultés de transport quand on habite dans certains coins qui sont un petit peu éloignés. C'est difficile de se rendre à son travail. Donc je pense qu'il y a des vraies difficultés qui sont à prendre en compte. Mais vraiment, elles disent vouloir vraiment se battre pour leurs enfants et pour la plupart, elles veulent vraiment pouvoir trouver un emploi, ce qui n'est pas toujours facile.
Est-ce qu'il est plus difficile finalement d'aider une femme pauvre qu'un homme pauvre?
Je ne pense pas qu'aider un homme ou une femme soit très différent. Peut-être que plus spontanément, les femmes vont se saisir de lieux de convivialité, de lieux de parole, ce qui n'est pas forcément la façon première des hommes, qui vont plus vouloir trouver des projets où ils peuvent agir. Donc voilà, je pense que les besoins ne sont pas les mêmes et que du coup la réponse n'est pas la même, mais il n'y a pas un qui est plus facile que l'autre.
Des propos recueillis par Justine Vassogne. Et à propos de précarité et de fragilité, Rome va accueillir pendant 3 jours, du 27 au 29 novembre, une rencontre européenne sur la pastorale des migrants. Une quarantaine de représentants des conférences épiscopales d'Europe, dont des évêques et des directeurs nationaux pour la pastorale des migrants, vont se retrouver autour du thème « Une pastorale de communion pour une évangélisation évangélisation renouvelée. Cette rencontre a pour objectif de faire le point sur l'engagement de l'Église en Europe dans ce domaine et de définir une feuille de route pour les activités de la section des migrants du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Les travaux seront inaugurés par Mgr Antonio Maria Velio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.